Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous croyons en Jésus-Christ, son Fils unique de Dieu, notre Seigneur, qui est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra pour juger les vivants et les morts. Ce mystère de l'ascension se prolonge avec le mystère du jugement divin dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Je ne vais pas parler de ce jugement divin de la fin du monde. Pourquoi ? Eh bien parce que ce jugement de la fin du monde, il ne fera qu'entériner le jugement particulier. Il n'y aura pas de changement. Tels nous serons à notre mort, tels nous serons après notre mort. C'est-à-dire, si nous sommes dans la grâce de Dieu au moment de notre mort, eh bien, nous mériterons le ciel. C'est d'ailleurs pour cette raison, soit dit en passant, parce que maintenant c'est de plus en plus fréquent, cette histoire de mettre les animaux au ciel, n'est-ce pas ? C'est impossible. Ils sont incapables, physiquement, ils n'ont pas d'âme spirituelle, et ils sont incapables parce qu'ils n'ont pas la grâce sanctifiante, parce qu'ils sont incapables de recevoir la grâce. Donc les animaux, ils meurent, ils sont en terre, c'est fini. Point barre. Ils servent de nourriture aux vers, aux végétaux, etc. Donc, je ferme la parenthèse. Donc faut arrêter avec le sentimentalisme, on aime bien nos petites bêtes, mais ils ont leur vie bien remplie sur terre, une vie absolument pas spirituelle, et donc ils n'ont pas à craindre le jour du jugement. Parce que pour eux, ils meurent, c'est fini, il n'y a plus rien. Ils sont réduits à leurs éléments. Nous, le jour du jugement dernier, eh bien, ne changera rien pour notre âme. Donc ce qui nous importe, c'est d'abord le jugement particulier. Saint Benoît, dans sa règle, dans ses fameux instruments des bonnes œuvres, ses petites maximes spirituelles qu'il nous donne pour éclairer tous les moments de notre vie, nous dit justement qu'il faut craindre le jour du jugement. Comment, mes bien chers frères, le jugement particulier va se présenter? Ou comment se présente-t-il? On en a une bonne idée dans les saints évangiles. Notre Seigneur Jésus-Christ nous enseigne à travers un grand nombre de paraboles, ces petites histoires, qui viennent éclairer les éléments de notre vie spirituelle, de notre vie chrétienne. À travers un grand nombre de paraboles, il nous montre que le jugement de Dieu sera un jugement dans lequel nous aurons des comptes à rendre, n'est-ce pas ? Nous avons la parabole des mines, les villes qui sont distribuées, l'héritage qui est distribué, etc., etc. Il y a un grand nombre de paraboles et à chaque fois, il s'agit de rendre des comptes. En reprenant la règle de Saint Benoît, vous le savez, nous la lisons 3 fois par an, même 6 fois en réalité, puisque le matin nous la lisons en latin et le soir en français, et donc 3 fois par an, ça signifie que début mai nous avons recommencé au début, et il est assez frappant de, c'est ce qui m'a frappé d'ailleurs ces derniers jours, en ce début mai, en reprenant la traduction de la règle de Saint Benoît, combien Saint Benoît insiste dans ses premiers chapitres sur ce jugement et sur les comptes que nous avons à rendre. Dans les 8 premiers chapitres, il évoque justement 8 fois les comptes à rendre. Et il faut ajouter le jugement divin, c'est-à-dire 3 fois, et il évoque aussi la chose à travers le mot discussio, n'est-ce pas, qu'on va retrouver Dans le chant de la messe des défunts, le dies irae, la discussio, c'est-à-dire l'examen que Dieu fera de nos péchés et de nos bonnes actions, effectivement. Donc, nous avons un point de vue qui est très intéressant, que ce soit dans l'Évangile, bien sûr, et ben, dans un grand texte spirituel, comme la règle de saint Benoît, qui est très évangélique, justement. Et nous avons cette insistance sur les comptes que nous aurons à rendre. Le jugement de notre âme à notre mort, ce sont des comptes à rendre. Ça signifie quoi ? Ça signifie d'abord que si nous avons des comptes à rendre, c'est que nous avons reçu quelque chose. Nous avons reçu des dons naturels, des dons surnaturels. Nous avons reçu des dons naturels. La nature humaine, justement, comme je vous le disais, qui se distingue de la nature animale. La nature humaine qui est spirituelle, contrairement à la nature animale, qui est purement matérielle. Les activités animales sont purement matérielles, leur affection est purement matérielle, etc., etc. Il n'y a aucune activité, on peut observer les animaux, et croyez-moi, je le fais pendant des heures et des heures, enfin, je passe pas mon temps à ça, mais en vivant avec des animaux, on s'aperçoit combien les poules, que certains considèrent comme intelligentes, ne le sont pas. Et les chiens ne sont pas plus intelligents que les poules. Pas du tout. C'est du ressenti, c'est de la connaissance sensible, mais ils n'ont aucune spiritualité. Ils sont incapables de s'élever vers Dieu. Mais c'est leur nature. Ils sont conformes à leur nature, c'est tout. Donc, nous, le premier don que nous avons reçu, c'est justement cette nature qui est spirituelle. Et ça implique une orientation. Puisque Dieu nous a donné cette nature, eh bien, il faut vivre selon cette nature. Puisque Dieu nous a donné cette nature spirituelle, avec une intelligence et une volonté, donc une liberté, ça veut dire que nous avons une responsabilité de vivre selon cette nature. En plus, Dieu a voulu élever la nature humaine à un ordre supérieur, l'ordre surnaturel. Il nous a tous appelés à cela, et le bon Dieu propose à tous sa grâce, à travers des grâces actuelles, qu'elles soient intérieures, qu'elles soient accompagnées aussi de grâces extérieures. Le bon Dieu veut que les âmes de tous les hommes aient cette possibilité de s'élever au-dessus même de leur nature, c'est la vie surnaturelle. Il propose cela à tous les hommes. Il propose ce don. Mais tout le monde, bien sûr, ne va pas le recevoir, ne va pas l'accepter. Mais celui qui ne l'accepte pas, eh bien, il est coupable. La Sainte Écriture nous le montre de mille et mille façons. Puisque ne pas répondre à l'appel de Dieu, eh bien, c'est évidemment coupable. Donc, nous avons reçu des dons naturels, notre propre nature, avec son intelligence et sa volonté en particulier, des dons surnaturels, c'est-à-dire la grâce sanctifiante, les grâces actuelles, et puis tout ce qui accompagne le cortège, qu'on l'appelle le cortège de la grâce. Ces dons reçus impliquent des devoirs à accomplir, impliquent que nous utilisions ce que Dieu nous a donné correctement, pour employer les termes de l'Évangile, que nous les fassions fructifier, n'est-ce pas ? On a la parabole bien connue des talents, et ces talents, il faut les faire fructifier. Les talents, hein, c'était de la monnaie, de l'argent. Parabole des villes, parabole des mines, etc., etc. À chaque fois, notre Seigneur Jésus-Christ nous montre un don qui est fait et la nécessité, je dis bien la nécessité, de faire fructifier ce don. Il y a donc les dons reçus, des devoirs à accomplir, des objectifs, on dirait aujourd'hui, à atteindre, n'est-ce pas, donc faire fructifier, conserver, non seulement conserver précieusement ce trésor, mais ce trésor, il est fait pour être mis en œuvre dans notre vie de tous les jours. Donc il ne s'agit pas uniquement de recevoir la grâce de Dieu si on ne vit pas selon cette grâce, n'est-ce pas ? Et si nous recevons l'intelligence et la volonté et que nous vivons comme des bêtes, évidemment, là aussi, c'est un problème. Si nous savons, nous avons connaissance de nos devoirs dans l'ordre surnaturel et dans l'ordre naturel, que nous ne les accomplissons pas, c'est pareil. Nous aurons des comptes à rendre. C'est le problème du monde actuel. Évidemment, le monde actuel, il s'éloigne de Dieu. Le monde actuel, alors qu'on en parle sans arrêt, vous écoutez les hommes politiques, le mot responsabilité, ils le sortent à toutes les phrases, n'est-ce pas ? Sauf que ils n'ont en réalité aucun sens des responsabilités, c'est-à-dire des véritables responsabilités. Les responsabilités, c'est celles que nous avons justement au regard de notre fin, notre but, c'est-à-dire Dieu lui-même. Si nous sommes responsables de nos actions, c'est parce que nos actions doivent être conformes à un certain but. Et si on n'a pas conscience de ce but, eh bien, on ne devient irresponsable. Mais en tant qu'homme, nous avons le devoir d'avoir conscience de ce but. Nous avons conscience de la fin. Contrairement, une fois de plus, je le répète, contrairement aux animaux qui n'ont aucune conscience de la fin, des moyens, etc. C'est uniquement une question instinctive. Ils répondent uniquement à leur nature, même s'ils le font de diverses manières. Donc là aussi, hein, il y a une différence. D'ailleurs, pour cette raison que les animaux n'ont aucune responsabilité au niveau même pénal. Et c'est normal. Donc on ne peut pas traiter un animal de voleur, de menteur et a fortiori, non, incapable de mentir. Justement, ça montre qu'ils n'ont pas d'âme. Donc il n'y a aucune responsabilité. Mais nous ne sommes pas des animaux. Je le répète, et c'est très important parce que la façon dont on traite aujourd'hui les animaux, avec ses parties animalistes, etc., est très symptomatique. On les met au même rang que l'homme, avec une spiritualité, mais en même temps, ils sont irresponsables. Légalement, on ne les juge pas encore responsables. Ce sont toujours les hommes qui sont responsables des bêtises que vont faire leurs animaux. Ce qui est complètement contradictoire par rapport à la pensée actuelle. Ça ne l'est pas par rapport à la véritable pensée chrétienne et naturelle même. Puisqu'effectivement, quand on a des animaux sous sa garde, eh bien, on est responsable de ce qu'ils peuvent faire ou ne pas faire. Ça s'appelle éventuellement le dressage. Tandis qu'on ne dresse pas des enfants, on les éduque. Et maintenant, au lieu de parler de dressage canin, on va parler d'éducation canine. Les mots sont importants. Parce que les mots montrent la mentalité. Donc, on parle d'éducation des enfants, mais on parle de dressage pour les animaux. Bref, c'est la question de la responsabilité. Nous avons conscience de la fin. Nous avons conscience, au moins nous en sommes capables, des moyens. Nous avons conscience des devoirs, nous avons conscience des dons que nous avons reçus. Et c'est le problème du monde actuel. Si on ne veut plus de Dieu, de la fin, si on ne veut plus utiliser notre intelligence correctement, et notre intelligence utilisée correctement nous mène à l'existence de Dieu, nous mène au devoir que nous avons vis-à-vis de lui, nous mène à nos devoirs vis-à-vis non seulement de lui, mais du prochain. On a une mentalité qui est radicalement différente de la mentalité qui nous entoure, où tout est compris sous l'aspect des droits, au lieu d'être compris sous l'aspect des devoirs. Et des droits qui sont mal compris. Le droit, si on prend l'étymologie latine, ça vient de directus, dirigere, qui implique justement une direction, n'est-ce pas? Si on prend le mot latin qui désigne le droit, c'est le jus, donc ça a donné en français justice, n'est-ce pas? Ce qui est le droit, en fait, c'est ce qui est juste, c'est-à-dire c'est ce qu'il faut faire. Donc le droit correspond précisément au devoir que nous avons. Aujourd'hui, on inverse les choses. Tous les droits sont finalisés à l'individu lui-même et non pas à un bien objectif à atteindre. Par conséquent, il n'y a plus de responsabilité. Les gens se finalisent complètement à eux-mêmes. On les finalise à eux-mêmes. Donc, ils deviennent irresponsables. Leur seul monde, c'est eux. Donc, ils ne se préoccupent pas des autres. Bien sûr, on va vous dire, si, il faut qu'ils se préoccupent des autres, machin, l'humanisme et compagnie, etc. Mais quand on regarde de près, c'est toujours dans un point de vue qui est égoïste, qui est finalisé à soi-même, et surtout qui exclut positivement Dieu. C'est très important que nous ayons conscience de ces réalités, non seulement pour nous-mêmes, pour redresser notre manière de penser, notre manière d'agir. C'est très important, évidemment, au plus haut point pour les parents, au niveau de l'éducation des enfants. Parce que l'éducation, justement, c'est la responsabilisation. Aujourd'hui, ça n'existe quasiment plus. Il n'y a plus de sanctions. Il n'y a plus de punitions. Ce n'est pas bien. Mais s'il n'y a plus de sanctions, s'il n'y a plus de punitions, de conséquences, quand on fait un acte mauvais, quand on dit une parole mauvaise, etc., il n'y a plus de responsabilité au final. Donc nos politiques, ils ont beau se plaindre, qu'ils soient de tous bords d'ailleurs, ils ont beau se plaindre de ce qui se passe dans la société, d'une société qui est de plus en plus, qui se livre de plus en plus à la délinquance. Mais d'une part, on a détruit toute relation avec ce qui nous empêche d'aller vers la délinquance, c'est-à-dire toute relation à Dieu, à un droit objectif, à des devoirs. Ils ont supprimé, bien sûr, combattu, détruit la famille, qui est la cellule de base pour l'éducation, justement, des enfants. Donc, ils se plaignent après qu'ils sont livrés à eux-mêmes, ils fassent n'importe quoi, ils participent à toutes sortes de trafics et autres, ou maintenant, ils deviennent même des assassins. C'est une conséquence logique. C'est une conséquence logique de l'éloignement de Dieu, de l'insistance sur des droits de l'homme complètement égocentriques. C'est la conséquence. Donc, nous devons en être conscients et nous devons lutter contre cela. La lutte contre cela n'est pas une lutte politique. C'est peine perdue, la lutte politique, aujourd'hui. Cette lutte contre cela, c'est une lutte personnelle. C'est une lutte personnelle par rapport à soi-même, ne pas rentrer dans cet état d'esprit et avoir le sens, justement, des comptes que nous aurons à rendre devant Dieu de ce que nous avons reçu. C'est aussi les comptes que nous aurons à rendre, par rapport aux responsabilités que nous pouvons avoir sur les autres. Donc, je vous invite, spécialement les parents, à lire ou à relire, notamment ce chapitre que nous avons terminé avant-hier ou hier sur l'abbé du monastère. où saint Benoît insiste très fortement justement sur la responsabilité des âmes que l'abbé a. Et cette responsabilité implique deux choses, à savoir se comporter correctement pour montrer l'exemple, bien sûr, mais encore à enseigner évidemment ce qui est droit et ce qui est juste. Donc, deux choses dans l'ordre du jugement, la responsabilité personnelle et la responsabilité qu'on a de conduire les autres selon les bons principes. Donc voyez l'importance d'être conscient de ces choses-là. Et nous constatons tristement, malheureusement, que beaucoup de fidèles, de catholiques, de familles, de pères, de mères de famille rentrent quasi totalement dans cette mentalité moderne au niveau de l'éducation de leurs enfants, ne les laissent pas assumer les conséquences même de leurs actes, même quand ils sont petits. Combien de fois j'ai dû gourmander des enfants parce qu'ils faisaient un peu n'importe quoi, à trifouiller dans mes parterres, etc. Ils se mettent à pleurnicher, les parents les consolent. C'est fini. Vous tuez l'éducation. C'est pas une chose grave, on est d'accord. Bon, après, il y a le chien qui va passer pour faire encore plus grave, mais lui, il est irresponsable. Et il le sera toujours. Si vous les consolez à chaque fois qu'ils pleurnichent parce qu'on les a disputés, à juste titre ou pas d'ailleurs, en fait c'est à juste titre, vous détruisez leur éducation. C'est simple. Parce que vous ne les laissez pas assumer les conséquences de leurs actes. Donc vous les laissez pleurnicher, ils vont s'occuper à autre chose, ils vont finir par arrêter, mais surtout, vous ne les consolez pas. Parce que c'est contre-productif. C'est à juste titre qu'ils se sont fait disputer. C'est la même chose à l'école. Autrefois, ça fonctionnait comme ça, c'est-à-dire que le maître, la maîtresse d'école punissait, les parents repunissaient, ils en rajoutaient un derrière. Ben, c'est ce qu'il faut faire, grosso modo. Maintenant, non, c'est pauvre petit chéri, le maître a été méchant, etc. Et donc, résultat, plus de punition. Résultat, on ne peut plus rien leur dire. Résultat, les professeurs se font agresser. C'est purement logique, c'est la conséquence. Tout se tient. C'est... Donc nous ne voulons pas participer à cette mentalité, eh bien, la solution, craindre le jour du jugement. Eh oui, il faut aller jusque-là. Pourquoi il faut aller jusque-là? Eh bien, parce que il y aura discussio, examen de toutes nos actions. L'élément essentiel, bien sûr, à notre mort, c'est nous sommes dans la grâce sanctifiante, nous ne le sommes pas. Si nous ne le sommes pas, c'est de notre faute, parce que le bon Dieu nous a donné tous les moyens. Les grâces actuelles intérieures, donc ces inspirations que nous donne le bon Dieu, les grâces actuelles extérieures, c'est par exemple la prédication du prêtre, les lectures, la rencontre d'une personne qui va vous éclairer, ça ce sont des grâces extérieures. Donc quand je vous invite à vous confesser, si vous n'êtes pas dans la grâce de Dieu, confessez-vous, c'est une grâce extérieure, il faut suivre cette grâce. Donc sinon, nous serons trouvés non pas dans la grâce de Dieu. Donc c'est le premier élément du jugement. Le deuxième élément du jugement, c'est tout ce que nous aurons fait, effectivement. Mais après, en règle générale, si vous voulez, tout est logique. À partir du moment où on ne vit pas dans la grâce de Dieu, eh bien, il n'y a pas de raison que ça se passe bien. Si on ne vit pas dans la grâce de Dieu, on va empiler les fautes plus ou moins graves, les erreurs, etc. Et si nous vivons dans la grâce de Dieu, ça ne nous rend pas parfaits. Mais au moins, nous avons ce moyen. Et dans tous les cas, nous serons jugés justement. Là encore, c'est une chose dont on ne veut plus. L'Église, entre guillemets, officielle, ne veut plus de cela. La justice divine, non, il faut pas parler de la justice divine. Pourquoi on dit dans le « Je crois en Dieu » d'où il viendra juger les vivants et les morts ? Pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ parle-t-il de ceux qui seront à sa droite et à sa gauche ? Pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ dit-il à certains « Vous irez au feu éternel » ou aux autres « Venez les bénis de mon Père ». Pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ a-t-il enseigné autant de fois et de diverses façons que nous aurions des comptes à rendre ? Pourquoi ? Il a parlé pour rien. Si nous avons des comptes à rendre et à la fin de notre vie, lors de notre mort, c'est qu'il y a bien un jugement divin. C'est qu'il y a bien un exercice de la justice divine. La justice divine qui rend à chacun selon ses œuvres, nous dit encore la Sainte Écriture. Donc c'est beau de parler de la miséricorde, etc. Alors oui, la miséricorde divine existe. Elle s'exerce ici-bas. Dieu, il nous a tout donné. C'est ça l'exercice de la miséricorde divine. Et même quand nous avons péché, et même gravement, il est capable encore de nous donner des grâces pour venir nous chercher, pour nous ramener à lui. C'est ça la miséricorde divine. Donc en réalité, à la fin de notre vie, l'heure de la miséricorde est terminée. Si nous sommes trouvés hors de la grâce sanctifiante, c'est que nous aurons abusé de la miséricorde divine. Nous n'aurons pas fait fructifier tous les dons que Dieu nous a apportés. Donc, en ces jours de l'Ascension, qui nous rappellent pourquoi nous sommes faits, c'est-à-dire pour le ciel, dans lesquels nous professons aussi que nous croyons que notre Seigneur Jésus-Christ viendra nous juger, non seulement à la fin du monde, mais aussi personnellement, à la fin de notre vie, nous devons bien nous mettre dans l'idée qu'il faut craindre le jour du jugement. Il faut craindre ce jour du jugement et par conséquent agir tant qu'il est encore temps, comme le dit saint Benoît, tant que nous sommes à la lumière du jour, c'est-à-dire non pas dans les ténèbres de la mort. Tant que nous sommes en vie, tant que nous sommes ici-bas, nous avons la possibilité d'aller vers le bon Dieu. Nous avons la possibilité de profiter de sa miséricorde. Profiter de sa miséricorde. Le terme qu'il y a derrière, le mot français, le terme latin, profiter, c'est justement porter du fruit, grandir dans la grâce de Dieu. Parce que lorsque les ténèbres de la mort s'abattront sur nous, eh bien justement, il sera trop tard. Il sera trop tard, les comptes seront faits et il n'y aura que deux options, le ciel ou l'enfer. Donc, pendant qu'il est encore temps, veillons à être plus responsables de notre vie, de nos actions, responsables surnaturellement, en nous orientant vers le bon Dieu, en orientant aussi ceux qui sont sous notre direction vers le bon Dieu, vers notre Seigneur. Ça demande des sacrifices, ça demande parfois de la sévérité, de la justice, ça demande parfois de la miséricorde, de la bonté, de la tendresse. Et je vous renvoie une fois de plus à saint Benoît qui montre ces deux éléments, montrer tantôt la sévérité du Maître, tantôt la tendresse du Père, non pas une tendresse qui est faiblesse, mais une tendresse qui est à l'image de la tendresse de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça fait partie de cette bonté aussi du Père, ça fait partie de cette bonté de notre Seigneur Jésus-Christ de nous avoir dit fortement ces réalités, de nous avoir dit que si on fait mal, eh bien, il y aura la peine éternelle. Si on fait bien, il y aura la récompense du ciel. Cela, notre Seigneur Jésus-Christ nous l'a dit. Et nous devons exercer ce même enseignement, finalement, pour les parents vis-à-vis de leurs enfants, pour les prêtres vis-à-vis des fidèles, pour tous ceux, finalement, qui ont des responsabilités vis-à-vis de ceux qui sont sous leur responsabilité. Donc, retenons une chose, craindre le jour du jugement, car nous aurons des comptes à rendre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.